Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Marie-Josette Liégeois venait souvent à Paris alors qu'elle habitait Strasbourg et en avait l'accent lourd alsacien, ce qui ajoutait à son charme, car ses roulages de R ainsi que sa lenteur d'élocution convenaient bien à son allure nonchalante comme à ses formes plantureuses, leur donnaient même un effet de sublimation. Si elle se rendait si souvent dans la capitale, c'était pour administrer ses soins à certains de ses patients, car elle exerçait la profession d'ostéopathe et était très demandée vu le succès de ses techniques. Elle n'aurait pas aimé qu'on dise d'elle qu'elle avait un style et un physique germanique, car nuage gris qui s'élève du passé lointain, sauf qu'on remonte du puits profond d'anciennes générations, les Alsaciens ne veulent pas être confondus avec les Allemands. De loin, il pouvait y avoir ressemblance, mais vue de plus près, elle n'avait nullement la tournure prussienne, faute d'avoir acquis l'austérité spartiate de ces gens-là. Non, elle avait plutôt celle des Rhénans ou des Bavarois, dont elle avait la gourmandise, voire la truculence. Cette gourmandise, elle l'appréciait, et tout à la fois, elle voulait la réprimer, d'une façon ou d'une autre. On verra comment par la suite. Malgré tout, elle adorait s'envoyer régulièrement baba au rhum, feuilletée à la crème pâtissière, religieuse au chocolat. Ce qui n'avait pas manqué, bien sûr, d'accentuer son embonpoint. Mais le résultat de ses excès était plaisant et ne se remarquait pas trop, car elle était de haute taille et avait un physique avantageux, style Magali Noël en blonde ou Sandra Milo en plus grande.
Vous écoutez les histoires à la loupe de Radio Courtoisie. Voici Marie-Josette Liégeois, première partie, sur un récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Un matin, où elle siégeait à la table d'une pâtisserie viennoise de la Petite France et mangeait son gâteau habituel tout en toisant les passants qui marchaient dans la rue et la regardaient furtivement, car elle appréciait le contraste qu'elle suscitait entre la voracité un peu triviale de son engloutissement alimentaire et la désinvolture un peu arrogante de son regard altier et indiscret sur les gens. Elle tomba sur un autre regard tout aussi insistant que le sien, celui d'un homme.
« C'est bon ?»
lui dit-il ex abrupto alors qu'elle avait des taches de crème sur les bajoues.
«
marmonna-t-elle de sa bouche obstruée.
« Ça donne envie.
Venez donc vous asseoir pour goûter. »
Une invitation aussi directe, l'homme n'hésita pas une seconde et, d'un air narquois et sûr de lui, vint s'asseoir auprès d'elle. Il n'eut pas le temps de héler un garçon pour passer une commande qu'elle lui avait déjà fourré la crème chantilly de son feuilleté en pleine poire. À cette bonne farce, Marie-Jo se mit à rire à gorge déployée. C'est ainsi, sur ces acerbes prémices, qui auguraient bien de leur futur dérapage, qu'ils firent connaissance. Le passant s'appelait Khalil Mahoud, un marchand libanais, teint basané, cheveux ondulés sur le crâne et moustache. Il était venu à Strasbourg pour vendre, espérait-il, plusieurs de ses bijoux précieux à un client exigeant lequel ne se déplaçait jamais. Il avait été séduit par le coup de la crème chantilly, car il s'était dit
« Si elle est aussi comique et festive en toute chose, ça promet un bon petit festin érotique. »
Quant à Marie-Jo, qui cherchait toujours à épater les mecs, elle s'était dit de son côté
« Je vais pouvoir le chahuter un peu ce bronzé, pour voir ce qu'il a dans le caisson. »
Ils causèrent l'un et l'autre, en se lançant de temps à autre des vannes ou des plaisanteries. Le courant étant bien passé, malgré ce festival de glorieuses inepties, et le bijoutier n'ayant rien de spécial à faire jusqu'au lendemain, elle lui fit visiter la petite France, ainsi que tout le quartier environnant, puisqu'il ne connaissait pas les lieux. Au cours de la promenade, elle lui montra, comme un guide l'aurait fait, les vieilles maisons, les tours du XIVe siècle, les ponts couverts. Et, comme un professeur, raconta les événements passés. La découverte de l'imprimerie par Gutenberg, la construction de la citadelle par Vauban, l'entrée triomphale de Louis XIV à côté de l'évêque Fürstenberg dans la ville, le baron de Dietrich un siècle plus tard, et les généraux Keller, Kellermann, Rapp, le peintre Gustave Doré. Alors qu'il traversait le parc de l'Orangerie, elle lui dit
« Cet après-midi, il y a un concert ici dans ce kiosque à musique. Ça vous intéresse ?»«
Mosbot, pourquoi pas ?»
Ce sera de la musique folklorique, jouée par une fanfare municipale. Et je ferai partie de l'orchestre.
Non, vraiment? De quel instrument jouez-vous? Violon, flûte?
Grosse caisse, caisse claire et cymbales.
Ah, inhabituel pour une dame de faire de la percussion.
Exact, c'est inhabituel, mais j'ai toujours eu envie d'en jouer. C'est mon hobby.
Khalil Mahoud était assez surpris d'imaginer cette belle femme en train de frapper en cadence ces instruments typiquement masculins. Il avait même du mal à y croire, de sorte que sa curiosité en fut des plus stimulées, et qu'il ne manqua pas d'assister à la performance quelques heures plus tard. Marie-Jo avait revêtu l'uniforme de rigueur des membres de la fanfare, veste rouge de cirque à épaulettes et galons brandebourg mordorés, chapeau à pompons, mini-jupe blanche à multiples plis. Les instrumentistes mâles portaient la même veste, mais étaient bien sûr en pantalon noir. Ils commencèrent par une musique militaire célèbre, Alte Kameraden, vieux camarade, où la grosse caisse et la caisse claire ont un rôle majeur dès le début. Ils enchaînèrent avec des marches tyroliennes, des valses et un morceau Kastelruther Schussenmarsch, où la percussionniste devait simultanément rythmer la marche à la grosse caisse et frapper la caisse claire. C'est là que Miss Liégeois se surpassa pour coordonner ses mouvements et fut applaudi. Le bijoutier en fut tout subjugué. Mais comment se fait-il qu'elle y arrive avec tellement de facilité ?
On a l'impression qu'elle a joué ça toute sa vie.
Peu après le concert, il lui exprima son admiration pour sa virtuosité.
Vous devez avoir répété et rejoué cette marche depuis des années pour y arriver si bien.
Oh non, seulement quelques jours. Il suffit de suivre et de mémoriser la partition.
Ce n'est pourtant pas facile d'actionner les deux instruments en même temps.
Oh, question d'intuition au début, puis d'habitude. C'est comme le massage ostéopathique que je pratique. Au début, on cherche où l'on peut débloquer la vertèbre ou le muscle. Et une fois qu'on a trouvé, on répète inlassablement le geste.
Ah, j'aimerais bien voir ça, Yanni. Mais je n'ai pas des douleurs nécessitant un déblocage.
Pas besoin de douleurs pour faire un massage.
Khalil perçut dans cette réflexion, et surtout dans le ton un peu mielleux avec laquelle elle le proférait, une invitation implicite, une sorte d'ouverture.
« Ma parole, elle me fait du gringue ou je rêve ?»
Ne laissant pas passer l'occasion, il saisit la balle au bond et répliqua immédiatement
« Parce que ça vous arrive de faire des massages purs et simples ?» Non ostéopathique.
Oh, ça m'arrive rarement. Mais ça pourrait m'arriver. Avec vous, par exemple.
Ah, punaise de punaise, ça y est, c'est dans la poche. J'ai quand même du bol. Une sacrée chance. Être dragué comme ça, par une femme si belle. Et qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver ?
Se dit Khalil Mahoud. Quant à la Liégeoise, elle se disait...
Encore un petit effort, et je le ferai entrer dans mes fantasmes, ce bronzé.
Une fois qu'ils furent parvenus à la porte de son immeuble, elle se mit à prendre des précautions de ténébreuse conjuration, lui faisant signe de ne pas faire de bruit en mettant son index en croix devant sa bouche. C'était pas à cause des voisins pour éviter de les incommoder par du bruit, non. C'était pour l'ambiance. S'agissait de le préparer à la bizarrerie qui allait suivre. Une fois dans l'appartement, elle ne le laissa pas suivre le schéma classique et préprogrammé du rapprochement charnel et lui déclara
« Puisque vous avez aimé la grosse caisse, je vais vous apprendre à en jouer. Ça vous dit ?»
Tout lui disait au bijoutier. Il était d'accord pour tout. Et du même avis qu'elle en chaque chose. Une pareille aubaine, ça ne se refusait pas. Seulement voilà, ce qu'elle lui proposa en guise d'enseignement musical et rythmique commença un peu à l'inquiéter, surtout lorsqu'elle lui montra l'engin qu'elle entendait lui confier pour qu'il l'utilisât contre elle, en précisant
« Disons que je serai la grosse caisse et vous serez le batteur. »«
Oh là !»
se dit Mahoud.
« Ne serais-je pas tombé sur une cinglée ? » ce qu'elle me propose, c'est un peu borderline.
Mais considérant la superbe anatomie de Marie-Jo, qu'elle avait commencé à dévoiler plus avant, considérant le balancement fastueux de son arrière-train, ainsi que le bombage somptueux de son balcon, il éloigna cette réflexion chagrine et préféra se laisser entraîner par ce qu'il voyait plutôt que par ce qu'il pensait. Il n'eut pas à le regretter et devint finalement un adepte fervent des extravagances, pour le moins spéciales, de la thérapeute. Certes, celle-ci commençait par des choses assurément un peu sévères pour elle, mais qui semblaient lui donner entière satisfaction. Pour se terminer, joie qui enflamme le cœur, bouquet final du feu d'artifice, par une réconciliation permettant d'atteindre des sommets. C'était ce qu'elle avait appelé la théorie de la remontada. Lorsque, par la suite, et après plusieurs séances répétées suivant le même scénario, elle avait expliqué sa philosophie du carnaval fornicatoire au pauvre Mahoud qui, jusque-là, était loin de se douter de toutes ces étranges subtilités un peu tordues. Lui se serait volontiers contenté de prouver gentiment et classiquement son admiration à la dame. Mais, comme elle insistait sur la façon bien particulière qu'elle avait de procéder, il eut à cœur de se caler dans cette savante mise en scène. Il n'eut pas à le regretter, puisqu'il finit par devenir un adepte fervent de ses extravagances, au point qu'il y participa plus activement, en inventant une formule incantatoire pour entrer dans la cérémonie. S'adressant à la thérapeute, il lui disait
« Il est minuit, docteur Schweitzer. »
C'était le signal. Et aussitôt, Marie-Jo obtempérait et donnait suite à cette mystérieuse affirmation en soulevant lentement sa jupe jusqu'à son nombril pour que Khalil bénéficie d'un accès plus facile à son ventre comme à son derrière. Elle le faisait dans un silence religieux, comme s'il s'agissait d'une liturgie très millimétrée, à laquelle elle se prêtait bien sûr avec ferveur. C'est ainsi que Marie-Josette Liégeois prit l'habitude lors de ses déplacements à Paris d'aller rendre visite à son amant libanais qui l'attendait avec impatience et enthousiasme. Elle ne venait pas dans sa boutique de la rue du Faubourg du Temple, ni dans l'appartement qui le surplombait, car il ne le jugeait pas assez chic pour la recevoir. Il se donnait rendez-vous à l'hôtel d'Isly, rue Jacob, dans le quartier latin, où il pouvait s'adonner en toute discrétion au scénario savamment concocté par l'ostéopathe. Il lui arrivait aussi de la rejoindre quelques jours l'été à Saint-Tropez, où elle passait de courtes vacances avec une bande d'amis strasbourgeois. Il existait là-bas une plage dite de l'Escalet, avec des cabanes de pêcheurs qu'on pouvait louer pour un jour ou pour une semaine. Marie-Jo appréciait bien cet endroit car la crique escarpée rendait l'accès difficile. Et cette difficulté permettait de pratiquer le nudisme, encore que ce fût officiellement interdit. Mais c'est justement cette interdiction qui l'excitait, Elle aimait la braver et s'asseoir dessus, et adorait se balader en tenue d'Ève sur cette plage, s'y montrer à tous, afin d'exhiber sa magnifique plastique dont elle n'était pas peu fière. Surtout quand celle-ci était ornée de quelques marques rouges ou traces violacées d'hématomes, pâle vestige de ses nuits torrides. Et après de telles provocations, d'y recruter de nouveaux amants susceptibles d'adopter ses pratiques. Les bleus qu'elle arborait crânement lui servaient même de prétexte à conversation. C'était d'un abordage facile, le garçon l'interrogeait sur le motif de leur présence sur sa peau et elle sortait le poteau rose en désignant le coupable d'un index vengeur.
« C'est lui !»
Mais en donnant une précision curieuse du genre
« Il n'a fait qu'exécuter mes ordres. »
Ou
« Il m'a fait une belle décoration corporelle, vous ne trouvez pas ?»
Ou encore
« J'adore quand c'est bien rouge. »
Et là, de deux choses l'une. Ou bien le gus questionneur repartait intimidé, penaud ou dégoûté. Ou bien ça l'intéressait. Dans ce dernier cas, elle s'attachait à l'attirer dans ses filets pour un approfondissement plus sérieux du dossier. De sorte qu'au bout d'un certain nombre de saisons, la bande s'était étoffée de pas mal d'obsédés ou de gens étranges un peu allumés, garçons ou filles, qui s'étaient greffés sur le noyau initial. Khalil, en frayant avec cette faune que Marie-Jo lui avait présentée, se demandait parfois s'il avait bien fait de poursuivre cette liaison avec celle qu'il dut finalement se résoudre à qualifier de nymphomane. Anecdote par-ci, rumeur par-là au sein de la bande, il en apprit de plus en plus, et des vertes et des pas mûres, susceptibles de le refroidir, punaise. Mais il repensait alors à sa suprême beauté, à la fanfare municipale où elle régnait, et surtout à ses exceptionnels talents comiques et provocateurs, et il avalait tout de même la couleuvre. Parmi les habitués de la bande, il y en avait un qui émergeait du lot. Il faisait tache parce qu'il n'était pas du même milieu. C'était en effet le tenancier d'un camping qui se trouvait à proximité des cabanes de plage. C'est lui qui avait trouvé ces cabanes à louer aux Strasbourgeois et ils avaient sympathisé. Un petit gros chauve à la voix criarde de Fauchet, qui s'appelait Joe. Souvent, il portait un béret basque pour couvrir sa calvitie. Et c'était curieux de le voir en maillot de bain avec son béret. Il était dépourvu d'éducation. Pourtant, même s'il était rusto et manquait de manières, la ruse lui tenait lieu d'intelligence. Il savait voir les failles des gens et saisir les opportunités des moments. Sa façon de se comporter avec la liégeoise, son ton patelin, ses rires gras et insistants, ses tactiles approches lui donnant l'accolade par-ci ou la touchant furtivement par-là pour s'en éloigner aussitôt, en feignant d'être gêné, tout laissa penser à Mahwood qu'il l'avait connu bibliquement autrefois. Et peut-être même encore aujourd'hui, et qu'il lui jouait une sorte de rôle sur catalogue. Ce qui agaçait Mahwood, c'était pas tellement qu'il ait été son amant, car il était loin d'être le seul. C'était plutôt ce petit jeu pré-programmé qui lui apparaissait comme une attitude convenue. Il la narguait, mais un peu comme si elle le lui avait demandé. Aussi, il ne put se retenir de lui dire
« Comment tu peux accepter avec un pareil goujat ?» Vous venez d'entendre le récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon, première partie.
Rendez-vous vendredi prochain pour la suite et la fin des aventures de Marie-Josette Liégeois. Histoire à la loupe.